Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus, le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla avec assurance pendant 3 mois. Il discuta ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit des disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, et bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur, si bien que tous les... Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. « Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. » Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste. Il resta lui-même encore quelque temps en Asie. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec eux, avec ceux qui exerçaient une activité similaire, et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par des mains d'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Asiarques, qui étaient des amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures, « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. « Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple et de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il congédia l'Assemblée.
Merci. Un long texte. Avant d'entrer dans le texte, j'aimerais pouvoir annoncer une bonne nouvelle à toute l'Assemblée, parce que tout le monde sait que le christianisme, c'est une bonne nouvelle. Alors, hier soir, moi et Élie, nous nous sommes fiancés. Et elle a dit oui. OK. Juste pour que je la voie une fois rouge comme une tomate, là. Fait que, pour ceux qui veulent voir sa bague, lui demander comment ça s'est passé, les femmes aiment montrer leur bague, raconter comment ça s'est passé. Fait que, allez la voir, elle va se faire un plaisir de vous en parler. Conclusion. Il y a des bonnes filles ici à Longueuil, n'est-ce pas? Des bonnes filles ici à Longueuil. Fait que si ça peut encourager quelques gars à rester ici, si certains d'entre vous vous êtes demandé, est-ce qu'il a le droit de dire ça? Est-ce qu'il peut, peux-tu dire ça en avant de tout le monde? Est-ce qu'un chrétien dit ça? Ça commence bien parce que ma première question pour vous, après ce texte, c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Si on peut mettre la parole. Qu'est-ce qu'un chrétien? Exactement. Est-ce qu'un chrétien, on l'imagine un peu comme ça? Alors, la fameuse peinture, l'homme avec sa fourche, avec la femme à côté, très sobre, habillé très sobrement. Comme dans l'Ancien Temps, ce qu'on voyait, c'était des fermiers, des gens simples, pas des gens très compliqués. Ou peut-être, en fait, l'image plus contemporaine aujourd'hui, peut-être un petit peu plus comme ça, au moins, plus propre. La Bible à la main, on voit un bâtiment derrière, alors tout le monde a l'air heureux, bien peigné. Le monsieur a même l'air d'avoir mis du gel pour se préparer à aller à l'église. OK. Si je vous présente une autre personne comme ceux-là, est-ce qu'on aurait tendance à penser, la première chose, c'est des chrétiens? On peut voir que être un chrétien, ça ne dépend pas du style. Ça ne dépend pas, c'est pas un style qu'on se donne, c'est pas un « je me promène avec ma bim pour que tout le monde sache que je suis chrétien ». Qu'est-ce qu'un chrétien? Et c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Le titre de ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est « Le peuple de la ville ». Merci beaucoup à ceux qui ont fait les chants pendant l'offrande. Je leur avais demandé un chant parce que le Dieu de cette ville, ça va vraiment bien avec ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un chrétien? On est le peuple de la ville. Et l'idée que j'aimerais vous amener aujourd'hui, c'est vraiment que l'Église de Longueuil, c'est le peuple de Jésus pour la transformation de la ville de Longueuil. Notre histoire, j'aimerais ça parcourir avec vous. Vous allez voir, on va passer au travers de Acte 19 ensemble. Et au travers de ça, j'aimerais ça répondre à cette question-là, justement, qu'est-ce qu'un chrétien, en plus de détails pour vous. Alors, on va commencer. Le premier verset, je pense que le prochain diapo. OK. Alors, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Je vais déjà m'arrêter là. Première phase. On va s'arrêter là. Qui est Apollos? Là, petite mention d'Apollos. Apollos était un orateur très, très influent. Alors, quand il parlait, les gens venaient le voir, venaient pour l'écouter parce que c'était un orateur très éloquent. Apollos a formé plusieurs disciples, plusieurs personnes qui venaient l'écouter pour suivre ses enseignements, pour qu'il soit son maître, comme on peut le voir dans le chapitre précédent. Et il avait laissé des gens, pas complètement instruits par rapport à Jésus derrière lui, et des gens avaient approché Apollos et lui a dit, « Ton message est bon, mais il te manque quelques affaires. Tu parles pas de Jésus encore, et pourtant, c'est les chrétiens, c'est ce qu'on est, c'est vraiment par rapport à qu'est-ce que Jésus est. » Alors, ensuite, quand il l'a appris, il a quitté pour pouvoir aller à Corinthe. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est que ça n'a pas changé. Apollos étant un très grand orateur, d'autres gens se sont mis à le suivre à un tel point qu'à Corinthe, il y avait déjà une église qui avait commencé. Et des gens ont commencé à suivre Apollos, puis d'autres qui étaient avec Paul au début quand il avait commencé l'église, mais avaient décidé de rester avec Paul. Fait que si vous allez dans la Bible et vous regardez la lettre à Corinthiens, la première chose que vous allez tomber, c'est sur cette chicane-là. Certains vont suivre Apollos, certains vont suivre Paul. Alors, les hommes suivent. Les hommes aiment trouver quelqu'un à se rattacher, aiment trouver quelqu'un à pouvoir dire, moi, cette personne-là, c'est comme ça que j'aimerais être. Moi, cette personne-là, c'est ça que je crois. C'est cette personne-là que je voudrais être. Qui d'entre vous ici ont déjà vu le film The Avengers? Les Avengers, quelques-uns. C'est un bon film en passant. les Avengers, un groupe de super-héros qui viennent pour sauver la Terre. Le vilain de l'histoire, qui s'appelle Loki, arrive à un certain moment donné, puis il demande aux gens à genoux. Il vient, il les menace avec son bâton magique ou whatever, je sais pas c'est quoi. Puis il demande à tout le monde à genoux. Fait que tout le monde se met à genoux, tu sais, ils ont peur. Fait que là, il commence à dire, genre, voilà, c'est dans cette position-là que vous devriez être. Les hommes sont faits pour suivre un chef, et c'est moi qui vais être votre chef, etc. Puis là, il y a un homme qui s'est levé. Puis là, ça, c'est le gars, là, le courageux de l'histoire. Il dit, non, moi, je veux pas te suivre. Moi, je vais suivre seulement moi-même, puis tout ça. Puis là, etc. Il a failli se faire tuer, mais un super-héros l'a sauvé. Fait que ça finit bien. L'idée là-dedans, c'est simplement, il y a quand même une certaine... Moi, je pense qu'il y a quand même une certaine vérité. L'être humain a été fait, a été créé. Nous, on croit ça, les chrétiens. L'être humain a été créé pour suivre quelqu'un. On n'a pas été créé pour se suivre nous-mêmes. Même si aujourd'hui, ce qui est vraiment populaire, c'est que les gens doivent être autonomes, indépendants. Je dois me suivre moi-même. Je dois suivre mes propres désirs, mes propres goûts, mes propres voies. Mais nous, on croit que même si une personne décide de vouloir se suivre de vouloir suivre ses désirs, elle finit par être esclave de ces désirs-là. L'être humain n'a pas été fait pour être autonome, tout seul, sans rien. Nous suivons quelqu'un. Nous, les chrétiens, on veut l'avouer qu'on suit quelqu'un. Qui est-ce qu'on suit? Et on va aller dans la suite de l'histoire pour le dire. Alors, je vais continuer le texte. Alors, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arrive à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Qui sont des chrétiens? Paul arrive à Éphèse, la ville dans laquelle on va rester pour tout le reste du chapitre. Paul arrive à Éphèse et rencontre justement ses disciples. Un disciple, là, c'est littéralement un élève, un étudiant, quelqu'un qui veut suivre quelqu'un. Très probablement des disciples d'Apollos, justement, qui venaient de quitter pour aller à Corinthe. Il les rencontre, puis leur pose la question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ce qui est spécial, c'est que Paul ne demande pas, est-ce que vous avez fait une petite prière? Est-ce que vous connaissez ce qui est Jésus? Récitez-moi la théologie de la divinité, l'humanité de Jésus. Il n'est pas en train de demander ces questions. Il dit, vous êtes des disciples. Vous croyez Dieu, vous croyez la Bible, vous croyez ça. Mais pour lui, savoir ce qu'est un chrétien, la première question qu'il pose, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ça, c'est vraiment spécial parce que nous, habituellement, est-ce que c'est la première question qu'on va se poser? Est-ce que c'est la première chose qu'on remarque chez un chrétien? Est-ce qu'on va demander à une personne, genre, qu'est-ce qui distingue un chrétien d'un autre? Pour la plupart des gens, ce qui nous distingue des autres, ça peut être soit qu'on aime lire la Bible, soit, bon, on se tient en église, on chante des chants, on se réunit dans un building le dimanche, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui nous distingue des autres? Moi, je pense que Paul, il fait bien de poser cette question-là parce que qu'est-ce qui nous distingue vraiment, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est que Dieu, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, Dieu a décidé, il a dit, « Moi, je vais habiter avec mon peuple. Je vais aller habiter avec des gens, être avec eux dans tout ce qu'ils font. » Et la manière dont cela ça s'est fait, c'est que le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un croit en Jésus, vient habiter le croyant. Et ça montre ça juste pour vous montrer, c'était quelque chose qui était promis depuis longtemps, c'était pas quelque chose comme ça a été inventé par les chrétiens au premier siècle, on s'est dit hey, ça serait cool, on va se trouver une caractéristique. On va se dire hey, le Saint-Esprit qui est rentré à nous, ça serait bon là, les gens vont nous trouver vraiment différents. Non, le Saint-Esprit, c'était quelque chose que Israël dans le temps connaissait depuis parlait depuis longtemps, mais le Saint-Esprit était réservé à des hommes importants. De David, on savait qu'il y avait le Saint-Esprit. Moïse avait le Saint-Esprit. Fait que c'était réservé vraiment à des hommes qui avaient une tâche particulière à faire, tout ça. Et même des fois, le Saint-Esprit quittait un homme lorsque comme Saül, lorsqu'il a été infidèle, puis qu'il n'a pas rempli la tâche qu'il devait faire. Mais là, il y avait quelque chose de totalement nouveau que Jésus apportait. Je vais juste vous lire un texte de l'Ancien Testament qui montre une promesse. Juste prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah, non, c'est pas celle-là, OK. Ézéchiel 36, 25 à 27. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Alors, on n'est pas des chrétiens en suivant des règles. On ne devient pas un chrétien en citant un credo. C'est même pas parce qu'on se réunit ici, dans un bâtiment, qu'on devient chrétien. Mais on devient chrétien lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'il vient vivre en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence. C'est le Saint-Esprit que l'on croit qui change notre cœur. En jargon vraiment théologique, on appelle ça la régénération. La régénération, c'est... Avant, je n'aimais pas Dieu. Avant, Dieu, c'était comme, ouais, je suis pas sûr, peut-être. Avant, tout ce qui était par rapport à Jésus-Christ, de venir dans l'Église, tout ça. Oui, ça peut être le fun, mais je le sais pas, puis tout ça. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il se passe que, dans le texte que je viens de vous lire, c'est que le Saint-Esprit rentre et change notre cœur. Tout d'un coup, la Bible devient pas simplement un livre intéressant à lire, ça devient vraiment la parole de Dieu. Où est-ce qu'on va pour savoir qu'est-ce que Dieu nous dit à nous? Tout d'un coup, la prière, ça devient pas juste un exercice religieux. Où est-ce que là, on essaie de fermer les yeux puis se dire, bon, psychologiquement, ça doit être bon, la prière, fait que je vais en faire un petit peu. Ça devient une porte d'entrée ouverte vers le ciel. Finalement, quand on se réunit, on dit plus genre, on vient à l'Église. On se réunit avec l'Église. L'Église, c'est les gens ici qui se sont réunis et qui ont cru en Jésus-Christ. On devient une nouvelle famille. C'est ça qui fait qu'on est des chrétiens. C'est pas que nos activités que l'on fait, mais c'est que le Saint-Esprit est entré en nous. Comment recevons-nous le Saint-Esprit? C'est en suivant Jésus. Ce que Paul demande, ensuite, il dit quand vous avez reçu... avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Fait que là, il dit, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Fait que là, de quel baptême vous avez été baptisé? Paul pose cette question-là parce que le baptême avait une signification particulière. Aujourd'hui, quand on pense à baptême, pour plusieurs d'entre vous, peut-être, avez été influencé par une culture catholique où est-ce qu'on prend un bébé, on lui asperge un peu d'eau, on lui fait une croix. J'ai jamais vraiment assisté à un baptême de bébé, je dois vous avouer. Mais je sais que ça a une connotation genre de purification. Fait qu'en faisant ce geste-là auprès du bébé, il est purifié. Dans le temps, à l'époque de Paul, c'était pas la signification qu'un baptême avait. Un baptême, ce que ça avait, c'était la signification que tu t'identifies à quelqu'un. Fait que tu t'identifies tellement à une personne ou à son enseignement que tu t'immerses complètement dans l'eau pour dire « je m'identifie complètement à cette personne ». Fait que là, quand Paul demande « de quel baptême est-ce que vous avez été baptisé? » parce qu'il est en train de demander « mais c'est qui vous suivez? Vous êtes les disciples de qui exactement? Vous êtes que vous êtes des disciples? » Fait que là, il dit « ben, on a reçu le baptême de Jean, on suit ses enseignements. » Fait que là, Paul, il comprend. Ah, je comprends maintenant. Vous suivez Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, ce qu'il a demandé de faire, c'est pas de le suivre lui, il a dit, il pointait vers quelqu'un qui était juste après lui. Il disait, oui, il disait, vous devez changer de vie, vous devez pas laisser les péchés dans votre vie, vous devez changer d'attitude. C'est ça qu'on appelle la repentance, encore dans le jargon biblique. La repentance, c'est simplement un changement d'attitude. Alors, je faisais quelque chose... Alors, ça me dérangeait pas, je volais mon patron, etc. Mais quand je fais une repentance, c'est que je change d'attitude. Dieu me dit que c'est mal, donc je décide, je crois que le vol est mal et donc je ne vole plus. Ça, c'est une repentance. Mais c'était pas seulement ça, c'était pas simplement un changement. C'est que Jean, il disait, vous devez suivre Jésus-Christ. Fait que Paul est en train de leur dire, c'est exactement ça que Jean a dit. Il a dit, vous devez suivre celui qui est après moi, le Messie, le Roi. Paul utilise le terme le Messie parce que le Messie, ça avait une connotation forte pour ses disciples-là. C'était le roi qui avait été promis depuis longtemps et qu'ils attendaient. C'était le roi du monde, celui qui allait pardonner les péchés, donner justement comme le Saint-Esprit, comme je viens de vous parler, pour que notre cœur soit vraiment transformé. Les disciples de Jean suivaient la mauvaise personne. Et encore aujourd'hui, ça peut être, on peut être en train de suivre la mauvaise personne, même si on est très proche. Ces gens-là étaient très proches. Ils suivaient Jean-Baptiste qui enseignait quelque chose qui était complètement vrai, mais il leur manquait juste un pas de plus d'aller vers Jésus qui était vraiment celui qui allait mourir pour les péchés du monde. Des fois, nous autres aussi, on est très proches. On vient à l'église, on écoute les enseignements de la Bible, on se dit, je vais essayer de les appliquer, je vais essayer d'être une bonne personne. Vous êtes proches, mais ce n'est pas complètement ça encore. La personne qu'il faut suivre, ce n'est pas l'église, ce n'est pas moi qui est en avant, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Vous devez faire un pas de plus puis décider vraiment, vous avez une décision à prendre de ne pas simplement suivre des règlements, des règles, ou même une personne, même si elle est très bonne, très religieuse ou qu'elle parle très bien, c'est Jésus-Christ que vous devez suivre. Mon rôle à moi ici n'est pas de vous pointer vers moi ou vers une moralité meilleure, mais c'est vraiment de vous pointer vers Jésus qui, lui, peut vous sauver. Lui peut pardonner vos péchés et peut vous donner le Saint-Esprit qui va vraiment transformer vos cœurs, qui va vraiment faire une différence. Alors, ma question pour vous, là on va changer de diapo, parce que là ça va être la bonne. Ma question pour vous c'est, suivez-vous Jésus? Dans la Bible, Jésus est décrit comme étant le seul moyen de pouvoir accéder à Dieu. Il n'y en a pas 25, alors si je peux dire ça, la religion chrétienne se prétend exclusive. On croit à un seul chemin. On croit à un seul salut, il n'y en a pas plusieurs chemins pour aller à Dieu. Ma deuxième question, c'est si vous avez l'impression que vous suivez Jésus, vous pouvez le tester. Est-ce que, ma question pour vous, c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Parce que plusieurs, vous pouvez croire intellectuellement certaines choses, mais lorsque le Saint-Esprit vient, vous allez voir, ça fait une méchante différence. Posez la question, demandez-vous la question à chacun. Est-ce que tu as l'impression que j'ai reçu le Saint-Esprit? Des fois, j'ai l'impression que ma vie spirituelle est sèche. Des fois, j'ai l'impression que je fais juste suivre une religion. Je sais que ça fait longtemps que je suis ici, mais j'aime mieux être sûr parce que c'est quand même votre destinée éternelle que c'est en train de toucher. Donc, vaut mieux poser la question puis que quelqu'un vous dise, genre, ben à date, ce que je vois chez toi, on pourrait peut-être, qu'est-ce que tu penses de Jésus, tout ça, on peut peut-être juste reviser qu'est-ce que tu penses par rapport à ça. Si vous avez des enfants qui sont nés dans l'Église, qui sont venus ici depuis longtemps, ça peut être une bonne question à poser. Toi, tu sais, tu dis que tu crois en Jésus, as-tu l'impression que tu as reçu le Saint-Esprit? Peut-être qu'ils vont me demander c'est quoi ça. Puis là, le Saint-Esprit, là, vous pouvez aller dans les Écritures, regardez avec votre enfant, le Saint-Esprit, tu vois, c'est censé produire du changement dans ton cœur, dans ta vie, c'est censé te faire aimer Jésus passionnément. Fait que, est-ce que tu as l'impression que ces fruits-là, tout ça, ça vaut la peine de poser ces questions-là? Posez-les à votre mari, à votre femme, à votre ami, peu importe. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si vous dites, j'ai suivi Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit, êtes-vous baptisé? Baptiser, c'est vraiment s'identifier à tout ce que Jésus-Christ a enseigné, tout ce que Jésus-Christ a fait. C'est un symbole, il n'y a rien de magique dans le baptême. C'est pas quelque chose qui va nous purifier, c'est pas quelque chose qui va nous sauver. C'est un symbole où ce qu'on démontre publiquement que l'on a décidé de suivre Jésus et tous ses enseignements. Alors si vous dites j'ai suivi Jésus, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je veux pas me faire baptiser. Encore là, moi je me poserai la question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que si Jésus a commandé le fait d'être baptisé, c'est pas pour rien. Et on peut faire plusieurs baptêmes, si vous voulez. On n'est pas obligé d'en faire un à la fois. On en fait de suite aussi. On amène une grosse piscine. Fait que les gens rentrent dans l'eau, on les baptise. C'est rien de très effrayant. Vous voyez, à Éphèse, il a fait 12 baptêmes d'une shot. C'est quand même pas pire. Fait qu'on en fait plusieurs en même temps. Maintenant, j'ai une question optionnelle pour vous. Et peut-être que je sais pas si vous êtes habitué à ça, peut-être qu'habituellement vous êtes habitué plus à un monologue de ma part, que moi je vous dise des choses. J'aimerais savoir, c'est une question optionnelle et j'aimerais ça qu'on vote, vu qu'on est une bonne démocratie. J'aimerais ça savoir pourquoi les disciples qui reçoivent le Saint-Esprit ici parlent en langue. Alors, j'aimerais donner le choix. Est-ce que vous trouvez ça approprié? Est-ce que vous aimeriez savoir pourquoi est-ce qu'à ce moment-ci, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue? Selon, selon ce que je comprends. Fait que je vous, ceux qui sont intéressés de savoir la réponse à cette question, selon que, qu'est-ce que j'ai étudié, on va voter. Sinon, on va juste passer à autre chose. Vous pouvez venir me voir pour demander. Puis, tout simplement ça. Fait que qui aimerait savoir la réponse à cette question, selon vous? Hey, là, c'est dur à compter, là. Mais je vois qu'il y en a beaucoup, fait que je vais y répondre. Fait que pour ceux qui écoutent l'enregistrement, vous allez avoir la réponse. Alors, pourquoi les croyants qui reçoivent le Saint-Esprit ici parlent-ils en langue? Est-ce que c'est quelque chose qu'on s'attend de chaque croyant qui vont avoir cru que lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont commencer à parler une langue inconnue? Alors, moi, je peux vous dire directement que la réponse dans la Bible, elle dit que non. On ne s'attend pas que chaque croyant chrétien qui reçoive le Saint-Esprit se mette soudainement à parler des langues inconnues. Une des preuves, c'est dans 1 Corinthiens. Si vous allez voir dans 1 Corinthiens 12, vous pouvez aller voir plus tard. Dans 1 Corinthiens 12, Paul pose quelques questions. Puis la réponse est comme sous-entendu, il dit « Tous enseignent-ils? Tous font-ils des guérisons? Tous parlent-ils en langue? » Et en passant, la réponse qu'il s'attend à avoir, c'est « Non ». Alors non, tous ne parlent pas en langue, ça c'est évident. Donc c'est quoi ce phénomène-là qui se passe présentement où est-ce que les gens, tout d'un coup quand ils reçoivent le Saint-Esprit, parlent en langue? Selon moi, selon ce que j'ai étudié avec ce livre-là, dans le livre des Actes, il y a seulement 4 fois dans le livre des Actes où est-ce que lorsque le Saint-Esprit vient sur un groupe de croyants, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Et à chaque fois, selon moi, ce que cela signifie, c'est que ça montre que puisque le peuple de Dieu, c'est ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, alors Dieu est en train de montrer qu'un nouveau groupe qui était inconnu auparavant, sont maintenant inclus parmi le peuple de Dieu, parmi l'Église. Alors, dans les 4 fois, alors en premier, vous avez tout le monde, les Juifs, tous les Juifs, en particulier, alors c'est plus juste les hommes importants, c'est plus juste ceux qui ont une tâche particulière, mais c'est tous les croyants, tous les Juifs qui reçoivent le Saint-Esprit. Fait que ça, c'est dans Acte 2, la première fois, la Pentecôte. La deuxième fois, c'est quand des demi-Juifs, fait que les Juifs pensaient, « Hey, c'est cool, on est le peuple de Dieu, on a reçu le Saint-Esprit. » Fait que là, quand des demi-Juifs, tout d'un coup, se mettent à parler en langue et à prophétiser, et à recevoir le Saint-Esprit, là, ils se sont comme rendus compte, « OK, c'est pas limité à nous, les Juifs. Bon, c'est peut-être limité à ceux qui ont du sang juif, fait que les demi-Juifs aussi. » Fait qu'on a une deuxième fois. La troisième fois, vous avez des non-Juifs complètement, des gens qui font pas partie d'Israël, qui reçoivent le Saint-Esprit, qui se mettent à parler en langue et à prophétiser. Alors là, Dieu montre que, finalement, le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui croient. Peu importe qu'ils soient juifs ou pas juifs. Cette quatrième fois-là, selon moi, c'est simplement pour faire une coupure entre ce qui était vraiment avant Jésus-Christ et maintenant que c'est Jésus-Christ. Vous avez ici des disciples de Jean-Baptiste qui étaient juste avant Jésus-Christ. Et Paul, pour la première fois, parce que les 3 autres fois, c'était Pierre que ça arrivait. Et Paul, pour la première fois, quand il impose les mains, des gens se mettent à parler en langue. Et ça, c'est pour montrer qu'on est vraiment dans une nouvelle ère. Le christianisme, c'est plus une religion post-juive. C'est une religion pro-Jésus maintenant. Fait que c'est vraiment pour commencer une nouvelle étape pour le peuple de Dieu de dire maintenant vous recevez tous le Saint-Esprit lorsque vous croyez en Jésus. Fait que si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez venir me voir, on peut en discuter, ça va me faire plaisir. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que quand même, vu que maintenant le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui croient, ça ne dépend plus de notre pays d'origine. Ça ne dépend plus de notre style. Ça ne dépend plus de ce qu'on fait. Mais ça dépend seulement de si on croit. Et ça, c'est vraiment encourageant pour tous les gens qui rentrent ici, pour tous les gens du monde entier, parce que le monde entier, maintenant, peut recevoir le Saint-Esprit s'il croit en Jésus. Fait qu'il n'y a personne ici qui est plus bizarre qu'un autre. Il n'y en a pas un ici qui ne devrait pas pas sentir à sa place. Vous êtes tous invités à pouvoir croire en Jésus et le recevoir pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, en conclusion, pour mon premier point, fait que c'est toujours le plus long, mon premier point, inquiétez-vous pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus et qui reçoit le Saint-Esprit qui le transforme de plus en plus. Mais est-ce que ça se limite ici? Est-ce qu'on est simplement le peuple de Jésus pour notre transformation personnelle ou est-ce qu'il y a plus? Je pense qu'il y a plus. Prochaine diapo. Pourquoi sommes-nous chrétiens? L'Église de Longueuil, c'est le peuple de Jésus. Alors, on suit Jésus, on a reçu le Saint-Esprit pour la transformation de la ville de Longueuil, des environs et même du monde. Fait que la prochaine question que je veux répondre pour vous en allant dans le reste du chapitre, c'est comment est-ce qu'on fait cette transformation-là? On veut pas juste être nous autres enfermés dans notre petit coin. On veut voir de grandes choses dans cette ville, comme disait le chant. Et il y a encore des grandes choses qui peuvent venir dans la ville. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette transformation-là dans la ville? Prochaine diapo, on va continuer dans l'histoire. Qu'est-ce que Paul fait? Alors, ensuite, Paul entre dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Qu'est-ce que Paul fait? Il avait reçu le Saint-Esprit, il est rentré dans une ville, il rentre dans une synagogue. Qu'est-ce qu'il commence? Il commence à parler du royaume de Dieu. Et encore là, il faut que je m'arrête parce que le royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu, c'est le moyen par lequel est-ce qu'on va transformer la ville. Et je veux juste vous expliquer rapidement, c'est quoi ça, l'évangile du royaume de Dieu? De quoi Paul discutait? Et prochaine diapo, j'aimerais ça y aller avec quelque chose de très simple. L'évangile du royaume se résume en 5 points. Création, chute, poursuite, solution et espérance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, l'évangile du royaume, à la création. Notre identité, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu pour être avec Dieu. Le problème, c'est que l'homme essaie d'être son propre Dieu. La Bible parle d'une histoire Adam et Ève. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'ils étaient en relation avec Dieu, mais ils ont décidé de vouloir être leur propre Dieu, de vivre leur vie à leur propre manière, avec leurs propres idées. Fait que l'homme veut être son propre Dieu. La poursuite, c'est que Dieu poursuit l'homme. Dieu n'arrête pas de se poursuivre l'homme constamment. Ceux qui étaient dans mon cours ce matin, on l'a vu. Dieu n'arrête pas, il ne lâche pas. Il va continuer. Il aime les êtres humains. Il ne va pas les lâcher. Il va continuer de les poursuivre pour leur montrer son amour. La solution, puisque l'homme ne peut pas venir à Dieu, en fait, c'est ça son problème, c'est qu'il a essayé d'être Dieu. Donc, c'est ça son problème. Dieu, il décide, je vais devenir un homme. Dans la personne de Jésus-Christ, meurt pour les péchés des gens, ressuscite, nous donne son esprit, comme on l'a vu. Et notre espérance, c'est qu'un jour, Jésus va revenir. Il va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il va créer quelque chose de complètement nouveau. Il va ramener la justice, tout ramener les torts qui sont faits. Le problème, c'est que ce message-là clash tout le temps avec quelque chose. Ça vient tout le temps nous chercher dans quelque chose parce qu'il y a tout le temps une partie du message qu'on est comme « Ouais, ben non, ça n'a pas l'air de marcher » puis tout ça. Prochaine diapositive. Si vous regardez dans la suite du chapitre 19, ça dit que, cependant, quand Paul parlait aux Juifs, il disait, il y en a qui restaient endurcis, qui ne voulaient pas croire. Et même qui commençaient à dire, ça n'a pas d'allure ce que tu dis, tout ça. Voici ce que pour les Juifs, voici c'était quoi leur évangile, leur message à eux autres, ce qu'ils pensaient, ce qui allait les sauver. Alors, pour eux autres, ils étaient d'accord. Oui, Dieu nous a créés, il n'y a pas de problème. T'sais. Il a même créé une nation, les Juifs. La chute. Fait que oui, le péché, on veut être nos propres dieux. Ça, il n'y a pas de problème non plus, etc. Mais la vraie conséquence de tout ça, c'est que ça fait de nous qu'on n'est plus une nation. Alors, la poursuite, alors ils savent, oui, on sait que les prophètes, c'est vraiment Dieu qui nous a envoyés. Oui, on sait que l'abîme, c'est vraiment comme Dieu qui nous poursuit, qui veut nous parler. Mais là, c'est à la solution qui bloquait. Alors, déjà, la solution, on disait, nous, ce qu'on a besoin, c'est pas d'un sauveur qui meurt comme une grosse défaite. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un roi. Un roi puissant pour ceux qui vont obéir. Puis là, il va nous délivrer des Romains, parce qu'à cette époque-là, les Juifs étaient sous la domination romaine. Fait qu'il va nous délivrer des Romains. Puis ça, ce que ça va créer, ce qu'on espère, c'est que ça va créer un royaume éternel pour les Juifs seulement. Alors, les Juifs clashaient sur le message de l'Évangile, parce que là, Paul arrivait, il leur présentait un roi, mais un roi qui meurt. C'est un peu bizarre. Tu es en train de dire, on va avoir la victoire par un roi qui meurt? OK, c'est un petit peu bizarre. Le problème, c'est qu'ils ont mal compris ce que Dieu faisait. Prochaine diapo. Jésus ne concordait pas avec leurs désirs. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Fait qu'eux autres, c'est comme ça marche pas. Ça va pas selon qu'est-ce qu'on voulait. On ne croit pas. Pour nous autres, c'est un petit peu la même chose. On se bâtit notre propre évangile en tant que Québécois. L'évangile des Québécois. Qu'est-ce que c'est? La création. Alors, nous autres, on a été créés pour être des êtres humains pleins de potentiel. Faut poursuivre nos rêves. Faut aller plus loin qu'on peut aller. La chute. Ah, mais qu'est-ce qui vient gâcher notre espérance? C'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient empêcher mon potentiel. C'est peut-être finalement mon chum. C'est peut-être finalement un programme. Fait que quelqu'un vient bloquer comme le fait que j'ai un potentiel que je peux réaliser. La poursuite, ben en fait, c'est sûr qu'une poursuite, les gens devraient m'aider. Dans leur tête, c'est comme les gens devraient savoir que on devrait pas arrêter le potentiel. On devrait jamais dire à une personne que qu'est-ce qu'elle fait, c'est mal. Ça va détruire son estime de soi, puis là, il va être gâché pour toujours. Puis là, oh non, faut jamais dire à quelqu'un qu'il fait quelque chose de mal. Ça, c'est le pire péché pour un Québécois. La solution, l'autonomie. Faut que je devienne une personne autonome, que j'aille de l'argent, que je sache où est-ce que je m'en vais dans la vie. Ça, c'est ma solution. L'espérance, boy, c'est un petit peu en dessous. L'espérance, c'est être une personne autonome, justement, confortable, riche, si possible, et pleinement réalisée. Prochaine diapo. Le problème, encore là, le problème, c'est que Jésus ne concorde pas avec nos désirs. La réalité ne concorde pas non plus avec notre bonne nouvelle, parce que quand est-ce qu'on est complètement réalisé? Puis un coup qu'on a l'impression qu'on a atteint notre réalisation, faut qu'on se batte toute notre vie pour la garder. Fait que c'est constant, ça nous libère pas. Ça nous laisse avec un sentiment jamais d'accomplissement. Puis c'est comme, ben là, je suis riche, là, j'ai des amis, là, je suis accompli, là, faut que je le garde, là, faut que je reste comme ça. Fait que on le sent que ça concorde pas avec la réalité. On n'est pas créé simplement juste pour se réaliser. Il y a toujours des obstacles. Un moment donné, on se réalise, puis c'est comme, ah, mais là, il y a une personne dans mon chemin, bon, une autre personne encore, qu'il faut que je règle ses problèmes, une autre personne. Hey, ça marche pas. Sécurité fragile. La vie est pleine de souffrance. On se rend compte, souvent, cet évangile-là va toffer jusqu'à temps qu'on n'ait aucune souffrance. On n'a aucune souffrance, ça va bien. Quand la vie nous envoie un coup dur, qu'on n'arrive pas à contrôler, puis tout de suite, on se rend compte, hey, ça marche pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, le royaume de Dieu, lui, concorde avec la réalité. Contrairement aux autres évangiles qu'on se fait, le royaume de Dieu, lui, il rentre. Et ce qui arrive, c'est que nous, notre rôle en tant que chrétiens, c'est qu'on veut leur présenter, regardez, vous êtes en train de vous faire un évangile. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que Dieu a quelque chose d'encore meilleur pour vous que qu'est-ce que vous pensez. Quelque chose qui reste, quelque chose de solide. Prochaine diapo. Fait que, quand on compare les deux, ce qui arrive dans la tête d'une personne quand on lui parle de ça, c'est que si on commence, puis on arrive, puis on fait juste lui présenter sans comprendre qu'est-ce que l'autre fait, c'est deux mondes complètement différents. L'évangile du royaume, on est créé pour refléter Dieu. L'évangile québécois, on existe pour se réaliser. Fait que vous parlez à une personne, on a été créé à l'image de Dieu, on a été créé pour refléter Dieu. La personne, c'est comme, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Nous, on dit, le problème, c'est que tu essaies d'être ton propre Dieu. Pour les gens, c'est comme, mais non, le problème, c'est les circonstances, les autres. Dieu nous demande de changer. Puis les Québécois, ils vont dire, non, les autres ont besoin de changer. C'est pas moi qui change, c'est l'autre a besoin de changer. Fait que c'est sûr, dès que tu demandes à quelqu'un de se changer, non. Christ a tout fait pour nous. Ils ont dit, nous devons tout faire nous-mêmes. Jésus revient pour enlever le mal, se réaliser. C'est ça qui va enlever mon mal. Fait qu'on a besoin de rentrer dans le monde des gens, leur faire se rendre compte qu'il y a quelque chose d'encore mieux. Ce qui est extraordinaire avec l'évangile du royaume, c'est exactement la solution, c'est que Dieu nous demande de changer, mais en même temps, Christ a déjà tout fait pour nous. C'est déjà tout accompli. On n'arrive pas avec une personne à dire, tu as besoin de changer, fait qu'on va te changer ça, on va te changer ça, on va te changer ça, on va te changer ça. Là, tu vas être un bon chrétien. Là, ça va être bien. Non, on dit, tu as besoin de changer, mais inquiète-toi pas, Jésus-Christ l'a déjà fait. Mais si on veut pouvoir leur présenter cette bonne nouvelle du royaume, il faut comprendre dans quelle culture on est, comment est-ce que les gens pensent, comment est-ce que les gens croient. suis vraiment reconnaissant. J'ai un livre que j'ai lu qui s'appelle Québécois 101, qui m'a permis de vraiment rentrer dans le cœur des Québécois puis de vraiment savoir qu'est-ce que le Québécois croit, qu'est-ce qu'ils veulent en général. C'est sûr, comme vous le voyez, c'est des généralisations. Fait que pour chaque personne, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de parler avec une personne. Notre rôle en tant qu'Église, c'est qu'on veut aimer les gens. Mais on les aime pas si on fait juste leur taper la tête puis leur dire, genre, crois en Jésus, crois en Jésus, crois en Jésus. Mais on les aime lorsqu'on fait comme Jésus. Jésus est rentré dans notre monde, nous a amené la solution, puis nous a amené avec lui. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. C'est comme ça qu'on va... Notre moyen, c'est l'Évangile du royaume. On rentre dans la vie des gens. On rentre dans ce qu'ils vivent, on leur apporte l'Évangile du royaume pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit et être transformés. Prochaine diapo. Alors, un chrétien a le Saint-Esprit et le message du royaume pour transformer sa vie, mais pas seulement sa vie, celle des autres aussi. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Alors, on s'en va vers la fin. Prochaine diapo. Portrait d'Éphèse. Fait que... qu'est-ce qui a changé dans la ville d'Éphèse? Dans notre histoire, Paul a partagé l'Évangile du royaume. Des gens qui étaient contre lui n'étaient pas d'accord. Est-ce qu'il y a eu une quelconque transformation dans la ville d'Éphèse ou elle est restée pareille? Et pour savoir s'il y a vraiment quelque chose qui a changé dans la ville, je vais vous donner simplement le portrait de qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville-là avant que Paul arrive. Comment cette ville-là était? Fait que Éphèse avait été fondée en 700 avant Jésus-Christ. C'était la capitale de la province d'Asie romaine. Fait que c'était une ville très importante, une métropole. 400 000 à 500 000 habitants, c'était énorme pour l'époque. Il y avait beaucoup de gens. Port important comme fleurissant. L'attraction la plus lucrative, c'était évidemment le temple de la déesse, comme vous avez entendu dans l'histoire. Alors, les gens venaient, payaient pour voir ce temple-là, payaient pour repartir avec des souvenirs du temple. Alors, c'était extrêmement lucratif. Une bibliothèque, fait que c'était pas des caves dans ce temps-là, c'était des gens instruits. Alors, des fois, on se dit, ah, oh, mais dans l'ancienne époque, moins intelligent, tout ça. Non, c'était des gens très instruits, ils aimaient la connaissance, les philosophes, il y avait une école, etc. Grand théâtre, pouvant contenir 25 000 personnes. Alors, ils aimaient se distraire aussi. Adoration d'idoles, beaucoup d'occultisme et écart entre riches et pauvres. Fait que ça, c'était la situation de la ville d'Éphèse. Lorsque Paul est arrivé, est-ce que la ville a été transformée? Et je peux vous dire qu'elle a été extrêmement transformée. La ville a été transformée physiquement. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Alors, les maladies les quittaient. Fait qu'on croit souvent que les chrétiens, nous, le physique, ça nous est, on se concentre juste sur le spirituel, nous autres. Physiquement, nous, le christianisme, c'est pas fait pour ça, on n'en parle pas. Et c'était la croyance. Ça, c'est à cause que vu que le christianisme a grandi dans le milieu grec, il y en a qui ont associé leur mentalité, puis ont dit genre, ah, mais les chrétiens, c'est un peu pareil. Fait que la croyance populaire de cette époque-là, c'était que le physique et le monde matériel, c'est mauvais. Seul l'esprit et le spirituel comptent. Nous, le royaume vient chambouler ça pour nous. On ne croit pas du tout que le physique, ça compte pas, c'est mauvais. Il faut juste se concentrer sur notre être intérieur. Il faut juste grandir au niveau de notre être intérieur. Nous, on croit que la matière qui a été créée est bonne. Jésus lui-même avait un corps. Il était parfait et il avait un corps. Donc, le problème, c'est pas le physique. Le problème, c'est le cœur des gens, comment ils se servent de qu'est-ce qui est matériel, de qu'est-ce qui est physique. Donc, la manière dont on utilise l'argent, nos corps... Et même la science, pour certains, la science puis Dieu, c'est complètement opposé, mais c'est faux. Dieu a créé la science. Dieu a créé un monde qui se tient pour qu'on puisse le regarder, être émerveillé puis dire « Aïe, aïe, ça marche ce truc-là ». Fait que c'est faux que le physique, on s'en soucie pas. Aujourd'hui, la croyance populaire, c'est que le physique est mauvais ou le physique, c'est tout. C'est juste ça qu'il y a. Il n'y a pas rien d'autre que le monde matériel qui existe. Fait que le royaume, Dieu a créé le physique pour qu'on s'en réjouisse d'une manière saine. Fait que nous, les chrétiens, on a des croyances par rapport à la science. On a des croyances par rapport à l'argent. Pour nous, l'argent, la manière dont on gère, c'est très important. On pense pas qu'il faut tout flamber. On pense pas qu'il faut tout donner à l'Église. On pense qu'il faut le gérer intelligemment. La sexualité. La sexualité, on ne croit pas que c'est mauvais, le moins possible, juste pour des enfants. Sexualité, on croit que c'est bon, c'est Dieu qui nous l'a donné dans le cadre du mariage, tout simplement. Fait qu'on les chrétiens se soucient du physique, se soucient de ce qui est matériel. Et ça, ça a été une des choses qui a transformé la ville d'Éphèse quand Paul guérit les malades. Les gens se souciaient pas plus que ils se souciaient pas des malades. Pour eux autres, c'est comme on va, c'est pas grave, c'est l'esprit qui compte. Aujourd'hui, on a les deux extrêmes. On a des gens qui viennent d'un arrière-plan religieux, mettre le physique, matériel le plus loin possible. On a des gens pour qui c'est tout. Pour nous autres, on croit que c'est bon, mais qu'il faut le gérer intelligemment. La ville est transformée spirituellement. Les mauvais esprits sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, c'est rare, mais ça arrive, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous, première lutte, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Les commentaires ne s'entendent pas pour dire « c'est-tu 1 million, 5 millions de dollars aujourd'hui? » Ce que ça voulait dire, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. La croyance populaire à cette époque-là, on peut contrôler le monde spirituel par la magie, par l'exorcisme. Fait que t'avais des gens qui étaient très mystiques. Fait que vous voyez, les Juifs se promenaient, ils disaient par un procédé mystique, si on prononce la bonne formule, les démons vont sortir. La croyance d'aujourd'hui, soit que le monde spirituel est partout. Il y en a des gens qui ont connu soit leur tante, soit une personne proche, soit peut-être même vous autres, des manifestations bizarres, des choses qui sont arrivées, puis vous n'êtes pas capable de les expliquer. Puis là, ça influence toute notre vie. Pour regarder l'horoscope, les étoiles vont guider ma vie. Ça, c'est les croyances qu'on a aujourd'hui. Ou sinon, c'est le contraire. Le monde spirituel n'existe pas. Fait que pour certaines personnes, peut-être ici d'entre vous, le monde spirituel, scientifiquement, ça fait pas d'allure puis tout ça. Pourtant, tout le monde, beaucoup d'entre nous, ont tous connu quelqu'un qui ont eu des manifestations qu'ils n'étaient pas capables d'expliquer. Le royaume, lui, nous montre que les démons ne sont soumis qu'à Jésus. On croit aussi que le monde spirituel, c'est Dieu qui l'a créé. Alors, mais que dans le monde spirituel, il n'y a pas juste du bon à l'intérieur dans le monde spirituel. Tu as les anges, évidemment, qui servent Dieu, mais tu as aussi les démons. Et les démons, c'est pas à jouer avec, c'est dangereux, on ne peut pas les contrôler. Peut-être certains d'entre vous avaient joué à certains jeux, Ouija ou autre, tout ça. Ces jeux-là, on a l'impression, hey, c'est le fun, on va triper, on va voir juste un petit peu si notre affaire va bouger pour savoir si quelque chose va arriver. La Bible enseigne que le monde spirituel essaie de faire soit deux choses, trois. Vous asservir complètement, vous séduire en vous faisant croire que votre grand-mère vous a parlé pendant que vous aviez un rêve. Essaie de vous faire croire que tout est beau de l'autre côté. Ou bien, la troisième des choses qu'il essaie de faire, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas du tout. Fait que c'est ce que la Bible enseigne. Et on croit que seul un homme a réussi à vaincre le royaume des démons, et c'est vraiment Jésus. Alors, si certains d'entre vous ont vécu de ces manifestations-là, peut-être que certains d'entre vous, vous avez encore peur. Peut-être qu'il y a encore des choses, des influences qui vous arrivent. Allez voir quelqu'un. Pour nous, c'est pas quelque chose qui est bizarre. Pour nous, c'est quelque chose, oui, le monde spirituel existe. Il y a seulement Jésus qui les a vaincus en mourant sur la croix pour les péchés. Fait que là, le diable ne peut plus nous accuser, ne peut plus essayer de nous asservir. La culture de la ville est transformée culturellement. La ville est transformée culturellement, excusez-moi. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. La croyance populaire aujourd'hui, selon la culture, c'est que on se sépare complètement de la culture, fait que le monde, c'est mauvais, on veut rien avoir avec ça. Tendance pour tout, beaucoup pour les sectes, pour les religions, ou bien on suit complètement la culture, on embarque, il n'y a aucun problème, puis tout ça. Pour nous, on croit, au niveau de la culture, on croit que certaines choses, il faut se séparer. Certaines choses, il est vrai. On veut pas faire comme tout le monde. On veut pas simplement suivre parce qu'on sait que derrière ça, il y a quelque chose de plus grand encore des fois. Fait qu'on veut pas juste jouer au Ouija parce que c'est cool. On sait que derrière ça, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu plus grand qu'on peut pas maîtriser. Certaines choses sont déjà bonnes. Parce qu'écouter le hockey, comme le reste des Québécois, est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on devrait s'en séparer parce que la culture dit « Hey, le hockey... » Non, il n'y a rien de mauvais dans le hockey. On apprécie le hockey. On aime ça l'écouter aussi. Bien, ça dépend des gens, mais on est capable d'apprécier les sports. On est capable d'apprécier la musique. Est-ce que la musique, on se sépare, on veut se séparer de la musique qui peuvent enseigner, montrer certaines choses qu'on sait que la Bible est contre. Mais par contre, la musique, on l'apprécie. On apprécie la bonne musique. Oui, fait que ça. Le reste, on est capable de racheter des choses aussi. Certaines personnes parlent des fois de la fête de Noël puis vont dire, moi, la fête de Noël, Jésus est même pas né à la fête de Noël. Le 25 décembre, c'est même pas là que ça a commencé. C'était une autre place puis tout ça. Puis ils vont dire, on devrait même pas fêter la fête de Noël. La fête de Noël, c'est un effort par les chrétiens de simplement dire, ben on va prendre une fête païenne puis on va montrer qui est Jésus par cette fête-là. La fête du solstice, si je me souviens bien. Ou ce que la lumière, c'était la fête de la lumière, mais on va montrer, la lumière est venue dans le monde. La lumière est venue ici, puis on veut s'en souvenir. Fait que oui, Jésus n'est pas venu le 25 décembre, d'accord. Mais les chrétiens, on fait pas juste comme, quand on n'est pas d'accord, on fait pas juste rejeter, on veut juste montrer. Ouais, c'est le fun de fêtons ça, mais fêtons ça ensemble pour se rappeler qui est Jésus. Fait qu'au niveau de la culture de la ville, c'est ce qu'on veut faire aussi dans la ville. Oui, il y a des choses mauvaises. Mais on veut pas juste se séparer des choses mauvaises. On veut aussi pouvoir parler de Jésus au travers des choses de la culture qu'on considère qui est bon. Fait que, est-ce que... Juste une petite... Comment est-ce que ça s'applique pour Longueuil aujourd'hui? On est dans la ville de Longueuil. Comment ça s'applique? Prochaine diapositive. Longueuil a été officiellement créé en 1848. Bon, c'est information. La population de Longueuil s'élève à 410 000. Ça ressemble beaucoup à la ville d'Éphèse. Pas mal dans les mêmes chiffres. C'est la cinquième ville la plus grosse au Québec. Il y a beaucoup de monde ici. On a l'impression, bon, Montréal, c'est hyper gros, mais après, ici, Longueuil, on est quand même pas mal gros. Ici, l'âge moyen ici, 40 ans environ. Une petite population étudiante. La langue, évidemment, tout le monde le sait, c'est le français. Population anglophone, de plus en plus d'immigrants arrivent ici à cause de notre proximité à Montréal. Montréal, qui est le berceau pour l'immigration, bien, beaucoup se rendent compte, bon, bien, on peut sortir de Montréal, on peut aller, ils s'en viennent ici à Longueuil. 65 000 familles, 32 000, beaucoup de familles à Longueuil. C'est quelque chose qu'on a énormément. 32 000 mariés, 13 000 monoparentales. Un immense besoin au niveau des familles parentales qui ont besoin d'être aidées, qui ont besoin d'être appuyées. Nombre d'unions libres augmente. Les croyances sont majoritairement catholiques ou sans croyances. Et ce que les gens recherchent, c'est principalement l'accomplissement de soi. Je vais juste vous donner quelques informations pour vous montrer comment est-ce que l'Église, on veut s'investir dans la ville. On ne veut pas simplement rester à l'intérieur, dans nos murs. Alors, ça implique, si je ne me trompe pas, au niveau scolaire, jamais tout seul. Les clubs pour enfants, vous avez vu qu'on a énormément de familles. On a des clubs pour enfants qu'on a chaque mercredi où est-ce qu'on invite les enfants à venir, où est-ce qu'on fait des jeux avec eux, des bricolages puis tout ça. On veut, puis on invite les parents à venir se réjouir avec nous autres de qu'est-ce que les enfants ont fait. Activité saisonnière, on va avoir une activité de Pâques. N'hésitez pas à inviter des gens. On veut pouvoir leur montrer que, oui, on aime ça fêter, on aime ça célébrer avec les gens. Bouffe pour tous. Je suis personnellement impliqué avec Bouffe pour tous, où est-ce que là, on veut aider ceux qui ont des besoins particuliers. Ça peut être des immigrants qui arrivent ici, qui ont besoin de nourriture en attendant. Ça peut être des gens qui ont des problèmes au niveau financier. Ça peut être aussi même des étudiants viennent nous voir, parce que quand t'arrives, t'es étudiant, bon, des fois, le budget est plus serré, mais on veut leur montrer qu'on les aime aussi, qu'on les aime, puis qu'on fait ça parce que Jésus nous aime. Y a-t-il autre chose? Petit groupe biblique, où est-ce qu'on parle des sujets, des petits groupes, en fait. Les mercredis, les gens se rassemblent, ils partagent. Mais qu'est-ce qu'on a vécu cette semaine? Comment est-ce que Dieu peut m'aider à transformer ça? J'étais à ma job, j'ai trouvé ça dur, etc. Mais comment est-ce que je peux faire que ça rend gloire à Jésus? Fait qu'on discute de ces choses-là ensemble. Alors, pour terminer, c'est ça. Quelles autres possibilités on peut avoir? Il y a des possibilités immenses. Ce qui est le fun, c'est que le Saint-Esprit nous permet d'avoir de l'imagination, puis de dire, mais comment est-ce que je vais aider? On ne va pas garder le même moule que d'habitude. Allons aider d'une manière que peut-être ça n'a jamais été faite. Peut-être un groupe de gens particuliers qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais même touché. En conclusion, comment est-ce qu'on va y arriver? Je pense, oui, en conclusion, comment est-ce qu'on peut y arriver? J'ai oublié une diapositive, c'est pas grave, mais les difficultés nous attendent. J'ai pas marqué, peut-être que pour vous, ça semble, mais je suis là, qu'est-ce que je peux faire? T'sais, une ville au complet, 410 000 personnes, est-ce que j'ai vraiment une influence? Oh, j'ai peut-être pas mis la bonne place. Les difficultés nous attendent. Je veux pas nécessairement tout lire, parce que là, ça va être long, mais le reste du chapitre nous montre que Paul, ça a pas toujours été rose quand il a essayé d'amener du changement dans sa ville. Au contraire, un moment donné, il a tellement influencé l'idolâtrie que les vendeurs d'idoles, se sont retrouvés en danger, puis étaient comme, on va perdre notre argent, qu'est-ce qui va se passer? Puis ils ont essayé de causer du trouble, de causer la rébellion. C'est pas toujours rose qu'on essaie de causer des changements. Comment y arriver? Je pense que la première réflexion, c'est qu'il faudra commencer à penser aux deux endroits que ça nous coûte le plus. Nos horaires et nos portefeuilles. Nos horaires symbolisent notre mission dans la vie. Le temps dans lequel on donne quelque chose représente ce qui est important pour nous. On met du temps dans ce qui est important. On y met de l'argent. Moi, je pense qu'il faudrait faire moins de programmes. Moins de programmes, puis libérer nos horaires pour avoir plus de temps pour donner aux gens. Puis de vraiment leur montrer qu'on les aime, tout ça. On a tous des horaires débordés. Je suis sûr qu'on est tous débordés. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment regarder, est-ce que je suis en train de faire, c'est en train d'aider pour le royaume de Jésus, ou je suis juste en train de patiner à passer toutes mes semaines à mon horaire qui est tellement plein? L'argent, je suis pas en train de dire il faut donner ici plus d'argent. Donnons plus d'argent à l'Église. C'est pas mon message. L'argent symbolise ce que je suis prêt à investir. J'investis pour mon confort. Est-ce que je suis prêt à investir ailleurs des fois? Est-ce que je suis prêt à donner un peu plus que qu'est-ce que je pensais que j'allais donner? Est-ce que j'ai besoin d'agir plus intelligemment avec mon argent? Fait que, en conclusion, Jésus veut vous transformer par son Saint-Esprit. Il veut transformer la ville. Est-ce que vous accepterez de le suivre dans cette aventure? Fait que je vous laisse avec cette question-là. Je vais juste prier pour vous. Puis après, j'ai invité les musiciens. Merci pour votre patience. Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas en train de prier à une idée, un concept qui n'existe pas. Je sais que je ne suis pas en train de prier simplement le fruit de mon imagination. Mais je sais que je suis en train de prier à celui qui est déjà venu sur la terre, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité. Seigneur, il y a peut-être différentes personnes ici qui ne te connaissent pas encore personnellement, qui n'ont pas pris la décision de te suivre. J'aimerais prier pour ces gens-là. Le christianisme, je suis coupable si je leur dis pas qu'ils ont un choix à faire. Et ce que je veux, Seigneur, c'est que les gens puissent commencer, s'ils n'ont pas pris cette décision-là, qu'ils puissent réfléchir parce que le Saint-Esprit veut vraiment transformer leur vie. Pour tous ceux qui te connaissent déjà et qui te suivent, j'aimerais te demander, montre-nous là où tu nous veux. Montre-nous là où ce que tu aimerais qu'on puisse transformer cette ville dans laquelle tu nous as mis. Seigneur, on n'est pas ici simplement pour nous-mêmes, mais on est pour, Seigneur, toute une ville, tout un monde qui est là, qui attend de recevoir ce que tu as fait pour nous. Alors, j'aimerais te demander que tu puisses nous montrer peut-être ce qu'on doit arrêter de faire, peut-être ce qu'on doit faire de plus. Seigneur, je pense que c'est ton Saint-Esprit qui peut le montrer à chacun. Et c'est pas à moi de leur dire quoi faire, et même j'espère qu'ils vont être motivés simplement par ton amour, ce que tu as fait pour eux. Et c'est au nom de, justement de ce que tu as fait pour nous, du fait que tu es mort à la croix, que tu me permets de pouvoir parler à Dieu, que je te prie, Seigneur. Amen.